qui se définit radicalement et en premier lieu par la substance, c'est-à-dire un principe d'autonomie. Bon, je vois que l'ousia est donc premièrement source d'intelligibilité et fait comprendre le point de vue de la substance seconde. L'ousia me fait comprendre toutes les autres déterminations, les 9 autres déterminations. Autrement dit, les 9 autres déterminations qui sont la quantité, je les énumère hein, pour que vous rappelez, la quantité, la qualité, la relation, la passion, l'action. On a déjà pas mal. Le temps, le lieu, le situs et l'habitus. Alors comme ça, vous les avez. Neuf. Bien, la substance est source de toutes ces intelligibilités. Ça, c'est très curieux. Elle est vraiment principe d'intelligibilité, source d'intelligibilité. Alors, comprenons bien, là, il y a un petit problème très délicat. Hein. Quand je dis qu'elle est source d'intelligibilité, alors, ça veut dire que la quantité n'a pas d'intelligibilité propre. Pas du tout. Elle est source radicale d'intelligibilité. La quantité a sa propre quidité. La qualité a sa propre quidité. Je peux définir la quantité, je peux définir. Pourquoi ? Parce que chacune de ces catégories ont une forme particulière. Et donc, parce qu'ils ont chacune une forme particulière, ils ont leur propre intelligibilité. Je peux me demander, qu'est-ce que c'est que la quantité ? Mais pour comprendre philosophiquement, d'une façon ultime, ce que c'est que la quantité, je dois la voir dans sa relation à la substance. Ce n'est que comme ça que je comprends parfaitement ce que c'est que la quantité. De même la qualité, de même la relation, toutes les déterminations, toutes les catégories, donc ont leur propre intelligibilité, mais sont enracinées dans la substance. Et donc, il y a toujours une double intelligibilité, une double, vous voyez, comme pour la substance seconde. Il y a toujours une double intelligibilité. Regardez ce qu'elles sont dans leur forme propre et ce qu'elles sont relativement à l'ousia. Ceci me permet de comprendre, et c'est intéressant aussi, de voir que, étant donné la connaissance que j'ai de l'ousia, qui est une connaissance d'un principe, c'est donc une connaissance qui est toujours difficile pour moi, parce que c'est un au-delà de ce que se manifeste. Je comprends que je ne connaîtrai parfaitement l'ousia que quand je la verrai dans toutes ses manifestations. C'est-à-dire qualité, quantité, relation, action, passion, relation. Toutes les manifestations, toutes les catégories me parlent de la substance. La substance est le noyau de toutes ces catégories, le noyau fondamental. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai deux connaissances de la substance. Je dépasse les catégories pour découvrir l'ousia, et une fois que j'ai découvert l'ousia, je regarde les catégories, qui sont comme les fleurs. Oui, c'est exactement la même chose, comme une fleur. Quand vous regardez la graine, vous ne connaissez pas grand-chose. Quand vous regardez le grand arbre, ah oui, vous comprenez. Eh bien, l'ousia, c'est comme la graine, c'est comme la semence, c'est la source. Et toutes les catégories manifestent. Oui. Alors évidemment, c'est beaucoup plus parlant, les catégories. C'est beaucoup plus parlant. Les relations, la qualité, la quantité, c'est beaucoup plus parlant. Ça manifeste ce qui est caché. Vous voyez, le visible et l'invisible. Alors, vous passez, l'invisible, c'est de là que sort toute l'intelligibilité de toutes les autres choses. Mais il faut bien maintenir que chaque catégorie a son intelligibilité propre. Donc je peux définir chacune des catégories pour elle-même. Et je peux la voir dans sa relation vis-à-vis de l'ousia. Là, il y a quelque chose d'important pour comprendre comment la seule chose qui vraiment se définit, c'est l'ousia. C'est ce que dit Aristote. Hein. Alors il faut bien saisir ici, hein, Quand je dis que la seule chose qui se définit, c'est l'ousia, il faut toujours se rappeler qu'il y a deux espèces de définitions. Il y a une définition qui se prend par genre et différence spécifique en logique. Et il y a une définition qui se prend au niveau métaphysique par la cause. Je ne peux définir parfaitement ce que c'est que la quantité que quand je la vois relativement à la substance. Parce que je donne la cause. Vous voyez ? Alors il y a deux espèces de définitions, ça il faut comprendre, hein, dans le langage. Vous définissez toujours de deux manières. Vous définissez logiquement, et la définition logique est une définition, je dirais, qui relève de notre conditionnement humain, de la condition de notre intelligence humaine, qui relève donc de notre conditionnement d'être intelligent, qui résonne. Alors nous définissons par le point de vue de l'universel. Alors, définir par le point de vue de l'universel, c'est définir par genre et différence spécifique. C'est définir par genre et le propre. Et puis on peut définir d'une manière beaucoup plus profonde, on définit par les principes et les causes. Alors définir par les principes et les causes, c'est proprement une définition philosophique. La seule définition philosophique, c'est par les principes et les causes. Et alors, grâce à la découverte de l'ousia, immédiatement, il y a comme une nouvelle lumière sur toutes les catégories. Donc ça, c'est la première chose que je dois voir, hein, c'est intéressant. Deuxièmement, je vais essayer de comprendre comment l'ousia, alors maintenant, non plus au point de vue d'intelligibilité, mais l'ousia dans son être, par rapport à l'être. Je dirais que l'ousia, le propre de l'ousia, c'est de subsister. L'ousia subsiste. Tandis qu'au contraire, oui, je le verrai ça après, peut-être, hein, si ça ne vous dérange pas, parce que c'est un petit nota bene. Alors, le propre de l'ousia, au point de vue principe, selon la forme de ce qui est, je dis que l'ousia subsiste, tandis que les catégories qui sont les déterminations secondaires, inertes. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand je dis que la substance subsiste, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je dis que les accidents inertes, ce sont les expressions que prennent saint Thomas en disant que l'accident inerte, et c'est pour ça qu'il dit l'accident comme tel, la quantité par exemple, ou la qualité, n'est pas vraiment l'être. Mais c'est de l'être. Oui. C'est de l'être, c'est pas l'être. Ens, c'est premièrement l'ousia. Je ne peux pas dire que la quantité, c'est ens. C'est ce qui est. Mais c'est de l'être, c'est relatif à l'autre. Alors il s'agit de bien comprendre cela. Quand je dis que la substance subsiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la substance est relié directement au jugement d'existence. Parce qu'elle est première dans l'ordre de l'être. Et donc, par elle-même, elle existe. Et parce que par elle-même, elle existe, on dit qu'elle subsiste. Subsister, c'est exister par soi. Donc, subsister, c'est exister par soi. C'est-à-dire, faire qu'on a une relation immédiate à l'être, indépendamment de tous les autres. On a une relation percée. La subsistance, ce qui subsiste, c'est ce qui est percé. L'expression latine, la percéité. Hein, c'est difficile à traduire, la percéité. C'est-à-dire, on traduira essentiellement. La substance existe essentiellement. Elle existe par elle-même, indépendamment d'un autre. En tant que substance, elle est reliée directement à l'être. Alors, il s'agit de comprendre comment, de fait, dans notre monde physique et en nous-mêmes, la substance subsiste. Or, la substance pour nous, hein, la substance pour nous, c'est notre âme. C'est notre âme spirituelle, évidemment, et notre âme qui informe notre corps. Alors, il s'agit de comprendre comment notre âme, par elle-même, subsiste, et comment notre âme, en subsistant, informe notre corps. Oui, c'est, autrement dit, la petite question que nous traitons maintenant, c'est le passage, en termes grecs, du tiesti, qu'est-ce que c'est que la substance, et le comment de la substance. Oui. Le tiesti, qu'est-ce que c'est que la substance, et le pos de la substance. C'est quelque chose de très important, ça. Qu'est-ce que c'est que la substance? On a découvert la substance comme principe, c'est-à-dire comme premier dans l'ordre de l'être. Et je me pose la question maintenant, en me posant la question, mais comment subsiste la substance? Parce que de fait, la substance demande de subsister. Elle est première dans l'ordre de l'être, donc elle subsiste. Mais c'est une qualité directe de la substance de subsister. Tandis qu'au contraire, les accidents ne subsistent pas par eux-mêmes, puisqu'ils sont seconds dans l'ordre de l'être. S'ils sont seconds dans l'ordre de l'être, ils ne peuvent pas subsister. Ils sont relatifs à la substance. Qui est relatif à un autre, dépend de l'autre. Et donc, ils dépendent dans l'ordre de l'être de la substance. S'ils dépendent dans l'ordre de l'être de la substance, ils ne peuvent pas exister par eux-mêmes. Ils existent en fonction de la substance. Oui. C'est facile à comprendre ça, mais c'est subtil en ce sens que c'est le retour au jugement d'existence, ce qu'on dira en scolastique l'essai, le rôle de l'essai par rapport à l'ousia. L'ousia implique l'essai. Vous voyez ? L'ousia implique l'essai. C'est pour ça que c'est toujours très mauvais de traduire ousia par essence. Ce qu'on a fait en scolastique, même saint Thomas. Il a fait ça sous l'influence des Arabes. Alors là, on peut peut-être mettre un tout petit nota bene, hein, puisqu'on me l'a demandé, un tout petit nota bene. La différence entre essence et substance. Parce que ce sont des mots qu'on emploie constamment, on ne sait pas exactement ce qu'on veut dire par là. Alors c'est peut-être important de bien noter la différence. Bon, nous avons vu comment l'ousia, la substance, s'était introduite en philosophie grecque avec Platon. À quel moment le mot essence s'introduit-il en philosophie? Il s'introduit en philosophie dès qu'on traduit Aristote en latin. Parce que cherchez bien en grec le mot essence. Qu'est-ce que c'est qu'en grec le mot essence? C'est pas commun de traduire en grec le mot essence. C'est le tiesti. C'est pour ça que Tricot, hein, dans sa traduction, quand il voit tiesti, mais essence. Mais vous comprenez que c'est pas tout à fait juste. Le tiesti, c'est une interrogation. Qu'est-ce? Et quand je pose la question qu'est-ce, qu'est-ce que je découvre? Ah, le tofienenaim, premièrement. Ou l'ousia. Deuxièmement, à l'interrogation qu'est-ce, je donne une définition logique, le totienenaim qui est exprimé, animal raisonnable. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Animal raisonnable. Ouais, ben, ce que vous direz. Le gosse qui voit une locomotive pour la première fois dans sa vie, il dit qu'est-ce que c'est à sa mère? Et sa mère dit locomotive. Et le gosse qui n'a jamais entendu locomotive dit « Qu'est-ce que c'est qu'une locomotive ?» Venez. Et alors la mère dit « Tais-toi » parce qu'elle ne veut pas des explications. Mais c'est vrai, le gosse désire savoir parce que le mot locomotive n'explique pas ce que c'est que la locomotive. C'est un mot. C'est une définition nominale. Et alors les grandes personnes, ça leur suffit. Mais pas les enfants, c'est très curieux. Les grandes personnes, ça leur suffit. D'avoir un nom, c'est évident. C'est pratique d'avoir un nom. Venez, donnez-moi le nom, alors comme ça je vous retrouverai. Et le nom, c'est très utile, parce que ça fait partie du commerce, n'est-ce pas? Ça fait partie de la possibilité de communiquer. Mais la réalité profonde, ça, c'est l'intelligence qui cherche. Qu'est-ce que c'est qu'une locomotive?
à la fois entendre la mère comme elle donne une explication sur ce que c'est que la locomotive, n'est-ce pas?
Tu vas voir, ça traîne le train. Oui, c'est à la tête du train, ou bien c'est à la queue, ça dépend, n'est-ce pas, c'est au point de départ. Mais ça traîne, ça donne le mouvement. Très bien, on peut donner toutes les explications voulues. Mais ce qui est sûr, c'est que le TST conduit au Totienainai ou à Lusia. Mais c'est l'interrogation. Il n'y a pas l'essence. Aristote dit Totienainai ou Lusia. Et ensuite, en latin, on dira essence. Très curieux, ça. Très curieux que le latin va donner essence. Le mot essence. Et le mot latin essence traduit tiesti. Et le mot usia traduit substantia. Et le mot totienea quidite. Alors vous avez en latin cette chose curieuse, essence, quidite, substance. Et puis saint Thomas ajoute la cure. Il dira ça, le jeune saint Thomas du DNT Essentia, le jeune saint Thomas du traité de l'être et de l'essence, dira essence égale cuidité égale nature égale substance. Et à ce moment-là, vous êtes. Saint Thomas dit ça, le jeune saint Thomas, il a raison de le dire en théologien, mais vous voyez, c'est très dangereux. Parce que vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il veut dire exactement quand vous dites essence. Bon, quand vous introduisez essence, vous, et alors surtout si vous regardez ensuite l'usage de l'essence s'est fait surtout en théologie. Et c'est fait avec les Arabes. Avicenne. Avicenne, c'est la philosophie de l'essence. Alors, l'essence chez Avicenne, c'est quoi? C'est presque l'idée de Platon. L'idée de Platon, c'est presque ça. Qu'est-ce que c'est que l'essence chez Avicenne? L'essence, c'est ce que Dieu pense de toute éternité sur chacun d'entre nous. L'essence d'homme. Ce sont les idées de Dieu réalisées dans le monde. Et puis, Dieu peut réaliser ses essences comme il le veut, alors il les crée, alors il ajoute l'existence. Vous voyez, tout de suite, hein, en théologie, le mot « essence » se distingue de « essai ». Et c'est comme ça que saint Thomas l'introduit. C'est en ce sens-là qu'on dira, dans toute créature, il y a une distinction essentielle entre essence et existence. Alors, vous voyez la confusion qui se fait, hein, quand vous n'êtes pas très, très au fait. C'est que « essence » exprime bien l'intelligibilité fondamentale d'une réalité. Donc c'est très proche de quidité. C'est très proche de quidité. Mais la différence entre essence et quidité, c'est que la quidité s'inscrit dans le to einai, dans le fait d'être. Tandis que l'essence se sépare du fait d'être. Il est pris isolément. Au fond, c'est uniquement le tiel. Très curieux, ça. Il y a une abstraction, autrement dit, hein, il y a une abstraction plus grande dans le point de vue de l'essence que même dans le point de vue de la quidité. Parce que vous regarderez l'essence, ce qu'est une réalité indépendamment de son existence. Ce qu'elle est en soi. Sa capacité d'exister. Ce n'est pas inscrit dans la réalité. C'est vu à partir de Dieu. C'est vu dans l'intelligibilité de Dieu. Vous direz que l'essence, ce sera une des grandes thèses scolastiques, vous direz que l'essence peut se trouver ou dans l'intelligence ou dans la réalité. Dans l'intelligence, elle est pensée, dans la réalité, elle existe. Vous voyez, c'est le contenu d'intelligibilité, l'essence. Mais l'essence et le contenu d'intelligibilité séparés de l'essai. Il est bien séparé de l'essai. Tandis que substance est liée à l'essai. Et la quidité elle-même est liée à la substance et elle est liée au toinai, au fait d'exister. Vous voyez, c'est beaucoup plus concret. Je crois que c'est très important de comprendre ça, parce que progressivement, voyez, on va confondre essence et substance, et alors à ce moment-là, la substance ne peut plus être un principe d'être. Ça devient uniquement un premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Et ça rejoint la position de Platon. Et c'est en ce sens-là que le néoplatonisme est réintroduit par le point de vue de l'essence. Oui, c'est très très curieux et c'est intéressant à voir historiquement ça. Le problème de l'essence et de l'existence. Parce que le problème de l'essence et de l'existence se repose même dans Sartre. C'est pour ça que c'est... Sartre ne parle pas du problème de la substance, mais du problème de l'essence. Le premier qui reparle de la substance, c'est Heidegger. En employant le mot « ousia », en revenant au grec. Autrement, vous voyez, quand vous regardez Sartre, quand vous regardez Merleau-Ponty, c'est un peu différent. Mais Sartre, lui, regarde uniquement le problème de l'essence et d'existence. Et il dira le propre de l'existentialisme, c'est de dire que l'existence est avant l'essence. Ce serait une manière extraordinaire de définir, en disant « l'essai », donc l'existant, est avant l'essence. Ce qui n'est pas vrai. C'est juste l'antiposition de Avicenne. Oui. C'est la position la plus grande. Pour Avicenne, l'essence est antérieure à l'essai, puisque Dieu nous pense de toute éternité. Et que notre essence, c'est ce qui est nécessaire en nous. C'est vrai, c'est ce qui est nécessaire en nous. Pour ne pas nous changer. Même si vous voulez être des anges, vous ne le serez jamais. De toute éternité, vous ne serez jamais des anges. Alors, il vaut mieux accepter ce que vous êtes. L'essence, vous êtes homme, nature humaine. C'est la nature humaine qui nous constitue, qui nous donne notre structure. C'est ça, ça c'est nécessaire. Votre existence, elle est contingente. Vous auriez pu très bien ne pas exister. Et l'essence humaine aurait encore existé. C'est vrai, ça c'est une manière de vous relativiser. N'est-ce pas? Parce que c'est très vrai que vous auriez pu très bien ne pas exister. Vous êtes une existence absolument contingente. Vous n'ajoutez rien, pas grand-chose, à l'essence humaine. La petite modalité particulière que vous ajoutez à l'essence humaine, c'est pas grand-chose. Et l'essence humaine existe. L'essence humaine, c'est quelque chose de nécessaire. L'existence, c'est contingent. Dieu aurait pu très bien ne pas nous créer. Oui, mais Dieu, de toute éternité, a pensé l'essence humaine comme une des manières de participer. Et ça, c'est nécessaire. C'est très curieux, vous voyez, cette vision théologique de l'essence et de l'existence. Ça, c'est Avicenne. C'est Avicenne qui est le premier à bien vu l'opposition entre essence et existence. Alors, quand vous prenez cette division, vous voyez, dans une philosophie laïcisée, complètement laïcisée et même athée, à la manière de Sartre, vous n'y comprenez plus rien. Ça vient de la bouillabaisse. Alors, vous dites « l'essai est avant ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « l'essai est avant » ? Ça veut dire la contingence est avant le point de vue de la nature. De la nature. Mais si l'essai est avant l'essence devient relative à l'essai. Si l'essence devient relative, elle devient elle-même contingente. L'homme est une passion inutile. Vous voyez comment on arrive à comprendre sa position. L'homme est une passion inutile parce que la passion inutile, c'est au niveau de la contingence. La contingence, c'est très vrai, j'aurais pu très bien ne pas exister. Et rien n'aurait été changé, donc je suis une passion inutile. Du côté de l'existence, mais pas du côté de l'essence. Du côté de l'essence, il y a quelque chose de nécessaire en moi. Je ne peux pas me changer. Tandis que ça, là, fait le changement. Vous voyez? Bon. Ça, c'est la, entre parenthèses. Vous voyez, donc, faisons attention que la substance a un lien direct avec l'essai, avec le jugement d'existence. Alors que l'essence se sépare du jugement d'existence. Et je ne regarde que l'intelligibilité nécessaire de la chose dans l'essence. Oui.
En théologie, on peut prendre essence sous le sens à la fois d'intelligibilité et aussi de substance.
Oui, c'est pour ça que ça donne même le parallèle entre les deux. Mais au fond, vous voyez, c'est la substance comme le théologien la regarde, et pas du tout comme le philosophe la regarde. C'est-à-dire, regarde, à ce moment-là, ce que Dieu pense, vous voyez, c'est par rapport à la pensée de Dieu, le point de vue du théologien, puisqu'il regarde tout dans la lumière de Dieu. Vous voyez, il regarde l'imago Dei, l'image de Dieu. Alors, il regarde de cette manière-là. Alors, que ça rejoigne la substance, tout à fait d'accord, ça rejoint, vous voyez, si je regarde essence, fluidité, nature et substance, Tout ça est dans la même ligne de la détermination première, dans la ligne de l'intelligibilité première des choses. Donc ça se rejoint. Mais le danger, vous voyez, c'est quand je passe de la théologie à la philosophie sans repenser ma philosophie. Alors à ce moment-là, je confonds essence et existence, je confonds substance et essence, et j'oublie le caractère réaliste de la substance. Et je n'ai plus que le point de vue de l'intelligibilité de l'essence. C'est ça le danger, vous voyez ? Et ça, ça fait comprendre toute la scolastique. La scolastique a confondu essence et substance. Bon, je continue, je ferme la parenthèse. N'est-ce pas ? Parce que c'est important, parce qu'il y a ces termes reviennent toujours, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire initialement. Il ne faut pas tomber dans un purisme absolu, mais il faut comprendre que le mot substance est relié au jugement d'existence et que je ne peux pas abstraire de l'ousia, de la substance, l'essai. C'est pour ça que je peux dire que la substance subsiste. Vous voyez, tandis que je ne peux pas dire que l'essence subsiste. Il n'y a que l'essence de Dieu qui subsiste. C'est la seule qui subsiste. C'est l'essence de Dieu. Le propre de Dieu, c'est de subsister dans son essence. Tandis que le propre de toute substance, c'est de subsister. Ah, vous comprenez ? Là, le Spinoza. Spinoza dit, il n'y a qu'une seule substance. Parce qu'il a confondu essence et substance. Il n'y a qu'une seule substance, Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul être dont l'essence est de subsister et d'exister. Et c'est vrai, il n'y a qu'un seul être dont l'essence est d'exister. Pour vous, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que votre essence est d'exister. Non, vous êtes contingente dans l'existence. Vous voyez, va donc contingence. Vous voyez, la suprême injure, n'est-ce pas ? C'est une contingence. Tu n'es qu'une contingence. Passion inutile. Vous voyez, on voit très bien comment Sartre dit ça, passion inutile. Parce qu'il ne voit que ce point de vue-là, il définit l'essence en fonction de l'essence, en fonction de l'existence. Et du côté de l'existence, c'est très vrai. On est contingent. C'est ça qui peut vous donner le vertige métaphysique quand vous réfléchissez, dire « j'aurais pu ne pas exister ouais. ». La face du monde n'aurait pas été changée. Ça nous met dans l'humilité. C'est vrai, on allait pas dire, j'aurais pu très bien exister et la face du monde aurait changé. Mais pas du tout. On n'aurait même pas pensé à vous. On pense à vous parce que vous existez. Alors vous êtes un numéro de plus et vous avez votre originalité propre. Mais au fond, ça n'ajoute rien. Ça n'ajoute rien à l'ordre de l'être. C'est extraordinaire. Alors ça donne le vertige, comme dit saint Thomas, donc l'angoisse. Ça peut donner l'angoisse. J'aurais pu très bien ne pas exister. Donc il y a en moi un fond radical vers le non-être. L'essence, c'est une possibilité d'exister. Ce n'est qu'une possibilité d'exister. Donc l'essence, parce que c'est une possibilité d'exister, implique être un ordre vers l'essai, un ordre vers le non-essai. Que c'est une possibilité d'exister. Si c'est une possibilité d'exister, elle implique aussi la possibilité de ne pas exister. Ce n'est pas une nécessité d'exister. Tandis que la substance implique un ordre de nécessité vers le subsister. C'est là la très grosse différence entre les deux. Vous voyez ? Là, vous comprenez. Dès que vous saisissez qu'il y a en vous une possibilité vers le non-être, c'est vrai, une possibilité vers le non-être. Alors ça donne le vertige métaphysique. Parce que sur quoi vous pouvez vous appuyer ? Rien en vous ne permet de vous appuyer du côté de votre essence. Rien en vous. Vous pouvez vous appuyer qu'en Dieu. Alors si vous vous regardez dans la sagesse de Dieu, ah très très bien, c'est vrai, je dépends directement de Dieu. Par lui tout a été fait, sans lui rien n'a été fait. C'est sans lui, rien n'existe. Donc, possibilité vers le néant. Alors ça, c'est un regard théologique. Mais quand j'ai un regard philosophique et que je confonds la substance et le point de vue de l'essence, il n'y a plus de roc. tandis que la substance est vraiment le roc dans l'ordre de l'être. Je m'appuie sur la substance. Elle est principe. Et parce qu'elle est principe, elle subsiste. Vous voyez ? C'est important de saisir ça, parce que ça fait comprendre le caractère propre de la substance qui subsiste. Tandis que je ne peux pas dire ça de l'essence. Je ne peux pas dire que l'essence subsiste. C'est une possibilité d'être ou pas d'être. Tandis que vous ne pouvez pas dire que la substance est une possibilité d'être, c'est un principe. Si c'est un principe, elle est première dans l'ordre de l'être. Si elle est première dans l'ordre de l'être, elle n'est pas impossible. Oui. Parce que le possible n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Le possible est toujours second. Or ici, il s'agit au contraire de quelque chose qui est premier dans l'ordre de l'être. Donc, elle subsiste. Ça, c'est le caractère propre de la substance. C'est le roc dans l'ordre de l'être. Je m'appuie dessus. C'est pour ça que c'est un principe d'autonomie. Très curieux, Dieu, là je ne me pose pas la question, hein, parce que je cherche. Mais vous voyez, le gros problème, ce sera de voir comment Dieu est capable de créer des substances. Comment Dieu peut créer des êtres qui ont l'autonomie dans l'ordre de l'être. C'est sûr, ça pose un petit problème. Parce que si Dieu crée des êtres qui sont des substances, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Bon, ici, je ne pose pas le problème. Hein. Je cherche ce que c'est que la substance. Et je cherche la substance en me regardant, ou en vous regardant. N'est-ce pas ? C'est en regardant les hommes qui sont autour de moi. Et je vois que nécessairement, il y a un principe premier dans l'ordre de l'être, qui est la substance. Et cette substance, donc, subsiste. Comment subsiste-t-elle ? Alors, je reviens à la question, comment subsiste-t-elle ? Je ne dis pas ce qu'elle est, mais comment subsiste-t-elle ? Eh bien, quand je me pose la question comment subsiste-t-elle, je vois que toutes les substances qui sont autour de moi, tous les êtres humains, impliquent une composition. La substance en elle-même est indivisible, mais elle n'existe que dans la composition. Ça, c'est très curieux. C'est un très grand... C'est vrai, c'est très étonnant de voir ça. La substance en elle-même est indivisible et elle n'existe que dans la composition. Je suis parti du « ceci est » qui implique une composition. Je suis parti du « je suis » qui implique une composition. Et j'ai saisi la racine, la substance. Maintenant, je reviens. Quelle est cette composition ? Comment existe-t-elle dans la composition ? Alors, c'est qu'en effet, cette substance, cette ousia, subsiste en impliquant le corps. Elle implique le corps, elle assume le corps. Mon corps fait partie de mon être. Ce n'est pas quelque chose de surajouté. Ça fait partie de mon être substantiel. J'existe dans mon corps. Je ne peux pas le dire simplement. Mon corps, c'est quelque chose qui vient s'ajouter. C'est un petit truc accidentel. Non, c'est substantiel. Alors, c'est très gros problème. Hein. Très gros problème de voir comment, de fait, ma substance, mon âme spirituelle, subsiste en assumant le corps. Elle subsiste en informant le corps. Elle subsiste en donnant au corps sa physionomie propre. Elle détermine le corps. Elle lui donne une physionomie propre. Alors, c'est donc tout le problème de voir la composition de cette substance, le comment. Le corps implique la matière. Le corps implique la quantité. Le corps implique la qualité. Les qualités. Il y a des qualités qui sont des qualités corporelles, la figure. Les sensibles propres sont toutes les qualités. Et le corps implique tout cela. Eh bien, la substance qui informe ce corps, puisque de fait, c'est le comment de la substance qui informe ce corps, va ramener toute la complexité de ce corps à une certaine unité substantielle. Parce que la substance garde d'être principe dans l'ordre de l'être. Donc, elle ramène toute la complexité
à une certaine unité. Toute la complexité du corps est ramenée à l'unité. Je suis un être existant. Je ne suis pas plusieurs êtres existants. Je suis un être existant. Et mon unité est une unité substantielle. Cette unité substantielle est donc indivisible dans sa source. Et cependant, elle est complexe dans ses parties. Alors, c'est ici où se situe le problème traditionnel qu'il faut bien essayer de comprendre de l'individuation. Qu'est-ce que c'est que l'individu ? On va d'abord arrêter, puis on va le reprendre après. Le problème de l'individuation. Et voyez comment on doit le situer. Hein. Ça, je vous le dirai tout à l'heure au point de vue philosophique, la manière dont saint Thomas le situe et la manière dont nous le situons ici. Parce que c'est très important de bien comprendre comment se situe le problème de l'individuation. Oui, parce que c'est un problème constant. Qu'est-ce que c'est que l'opposition que Maritain fera entre l'individu et la personne. Vous comprenez que c'est faut bien comprendre. Il n'y a pas du tout d'opposition puisque l'individu se rattache à la substance et la personne se rattache à la substance. Donc personne et individu ont la même source. C'est la substance. Mais évidemment, ça se présente de deux manières différentes.
Le 1er mars 1982, 6e conférence.
Concret de l'Ousia. Comment l'Ousia se trouve réalisée dans notre monde? Comment l'Ousia se trouve réalisée en moi? En moi, je le trouve réalisé en assumant le corps, en informant le corps. Le corps implique matière, quantité, qualité. Par le corps, je suis partie de cet univers. Alors, voyez, cette espèce de chose très particulière, de situation spéciale de l'homme, comme disaient les néoplatoniciens, il est l'horizon du monde matériel et du monde spirituel. C'est très beau, tu restes. Parce que par l'âme, j'ai l'autonomie. Par mon âme spirituelle, par ma substance, j'ai mon autonomie. Et j'ai une autonomie qui va impliquer de fait, à l'égard de mes opérations vitales, une liberté. Et par le corps, je suis partie de cet univers. Et donc je suis dépendant de cet univers. C'est la situation que je peux tout de suite saisir, et facilement. Donc j'ai les deux en moi, mais radicalement, c'est d'ordre tout à fait radical, c'est d'ordre substantiel, donc c'est d'ordre radical. J'ai à la fois l'autonomie, et en même temps, je suis par le corps individualisé. Je deviens une partie d'un tout. C'est ça l'individuation. Je suis une partie d'un tout. Je suis partie de ce grand tout qu'est l'univers, par mon corps. Alors, c'est ici où se situe le problème de l'individuation, tel que saint Thomas le situe, tel qu'on l'a situé chez les théologiens. Aristote ne s'est jamais posé le problème de l'individuation, parce que Aristote se posait le problème du tiesti et du pos. Alors, quand je pose le problème du TST et le problème du pose, je n'ai pas besoin de me poser le problème de l'individuation. Le problème de l'individuation, c'est tout simplement de savoir comment la substance se trouve réalisée dans le monde physique. Comment ? Alors, c'est le corps, la matière, qui est assumée par la substance. Alors, c'est très intéressant ça, parce que ça montre comment, par le problème du comment, la matière est intégrée dans l'être. La matière n'est intégrée dans l'être que par le comment, et pas du tout par le point de vue du tiesti. Autrement dit, la matière n'est pas un principe propre de l'être, la matière ne peut être qu'une manière particulière d'exister. Et ceci, c'est très important à bien comprendre. Nous y reviendrons là-dessus, parce que c'est un problème très très foncier, très important à bien comprendre, surtout face au marxisme d'aujourd'hui. C'est important de bien comprendre cela, que la matière ne peut être qu'un conditionnement
et que la matière ne peut pas être un principe propre. Alors, vous voyez que par là, je vois comment la matière est intégrée, elle est assumée. Elle est assumée. Avec la matière, c'est tout le problème du devenir, c'est tout le problème de la mobilité, du conditionnement. C'est tout le problème de la quantité. Je deviens une partie. C'est tout le problème des qualités sensibles, par où je suis en contact. Je suis partie, je suis en contact. Et je suis en continuité avec ce monde physique dans lequel je suis. Les théologiens, eux, ont parlé d'un problème d'individuation. Et les théologiens ont cherché le principe de l'individuation. Alors ça serait très intéressant de se demander pourquoi les théologiens se posent le problème alors que le philosophe ne se pose pas le problème. C'est sûr intéressant ça, parce que ça fait comprendre les deux perspectives différentes. Le théologien saint Thomas se pose le problème de l'individuation par rapport à l'homme, c'est bien évident. Et vous comprenez le problème de l'individuation par rapport à l'homme, comment il se situe au point de vue théologique. Au point de vue théologique, l'homme a une âme spirituelle, créé directement par Dieu. Si cette âme spirituelle est créée directement par Dieu, cette âme est créée aussi dans le corps. Et pour saint Thomas, l'âme spirituelle est créée dans le corps au sixième mois, à cause du petit Jean-Baptiste. À cause de Jean-Baptiste, ça. C'est le sixième mois où il y a eu le petit tressaillement de Jean-Baptiste. Quand Marie est venue auprès de sa mère Élisabeth, alors à partir de là, on disait l'âme était vraiment là. Je ne dis pas que c'est Marie qui a porté l'âme de Jean-Baptiste. Hein. Non, c'est sûrement pas. C'est Dieu qui a créé l'âme de Jean-Baptiste. Et parce qu'il était créé, il pouvait être sanctifié. C'est très très joli comme manière de voir les interprétations des théologiens du Moyen-Âge. Bon, nous, aujourd'hui, nous ne disons plus ça. Nous pouvons, au point de vue théologique, je crois, prendre un argument très fort qui est l'argument du mystère de l'Immaculée Conception. Et je crois que c'est pour ça que l'Immaculée Conception nous a été révélée. C'est pour que nous comprenions que dès le premier instant de sa conception, Marie est immaculée. Donc si dès le premier instant de sa conception, Marie est immaculée, ça prouve qu'il y a une âme spirituelle en elle. Autrement, elle ne serait pas immaculée. C'est l'âme qui est immaculée. Parce que l'Immaculée Conception implique la plénitude de grâce. Donc ce n'est pas le corps. Et comme Marie est notre sœur dans l'humanité, ce qui est vrai de Marie est vrai de nous. Donc nous pouvons avoir un argument très fort au point de vue théologique à partir de l'Immaculée Conception pour dire que l'âme est créée dès le premier instant de la conception. Ça, je crois que nous pouvons le dire. L'âme est créée dès le premier instant de la conception. Mais alors ça pose tous des problèmes énorme au point de vue de ce que nous voyons aujourd'hui, vous savez bien, les conceptions, les naissances, le bébé éprouvette, le point de vue de... Ça pose un tas de problèmes, hein. On va en voir là-dessus. Parce que c'est pas commun du tout. Hein. Dès le premier moment de la conception, je crois qu'on doit dire que l'âme est créée, puisque le chiffre de l'homme est donné. Le chiffre biologique est donné. Alors c'est un signe, évidemment. Le chiffre de l'homme n'est pas l'âme. Mais c'est l'individuation. C'est l'individuation. Parce que nous avons chacun notre chiffre biologique. Et si chacun nous avons un chiffre biologique, au point de vue biologique, c'est bien notre individuation. Nous sommes individués biologiquement par ce chiffre biologique qui est unique pour chacun d'entre nous. Or, je crois que ce chiffre biologique est la conséquence immédiate de l'âme informant le corps et individuel pour chacun d'entre nous. On ne verrait pas très bien comment... On pourrait dire, évidemment, que le problème de l'individuation se fait avant, mais quand l'âme vient... Alors, voyez, ce serait l'âme qui serait ordonnée au corps et non pas le corps ordonné à l'âme. Ce serait gênant, d'un point de vue métaphysique. Ce serait très gênant, ça. Si de fait l'homme a son chiffre biologique avant, il faut que l'âme corresponde à ce chiffre biologique. Évidemment, l'âme est créée dans le corps et donc il y a une correspondance et une harmonie entre les deux. Alors là encore, on pourrait dire le point de vue du temps et de l'éternité, puisque l'âme est créée par Dieu, donc c'est l'acte créateur de Dieu est éternel, tandis que le point de vue de la conception est dans le temps. Alors c'est encore l'éternité et le temps.
Oui, alors, il y a toujours le même problème, l'éternité et le temps. Et alors, c'est toujours ces mêmes problèmes qui sont curieux. Alors, le théologien, lui, est en présence de l'âme spirituelle, créée par Dieu, créée dans le corps, créée dans le fœtus, mais peu importe, créée dans le corps. Alors, l'âme spirituelle est spécifiquement la même pour tous les hommes, puisque nous sommes de même espèce humaine. Il n'y a pas de différence de nature entre nos âmes spirituelles. Alors, cependant, il y a une différence au point de vue des individus. Il y a une très grande diversité dans les individus humains. Comment expliquer cette unité spécifique et cette multiplicité individuelle, le problème de l'un du multiple. Cette unité spécifique qui demeure dans tous et la multiplicité dans les individus. Voilà le problème du théologien. Comment expliquer qu'il y a une espèce humaine et il y a une quantité d'individus, et que ces individus s'entendent plus ou moins bien, bien qu'il y ait l'unité spécifique. Il y a une très grande diversité dans les individus. Alors le théologien veut sauvegarder avant tout l'unité de l'espèce. C'est ça que le théologien veut, unité. Parce que l'unité de l'espèce repose sur l'âme spirituelle, qui est la même pour tous. Dieu veut qu'il y ait une espèce humaine, chef-d'œuvre de Dieu. Chef-d'œuvre de Dieu par la création de l'âme dans le corps. Et il dit que par le point de vue du corps, on va expliquer alors l'individu. On va parler d'un principe d'individuation. L'individuation, c'est ce parfois l'individu est individu. C'est le point de vue abstrait. Ce par quoi, c'est ce par quoi. Si c'est ce par quoi, c'est donc un principe. On peut donc parler d'un principe d'individuation par rapport à tel ou tel individu. C'est ce par quoi. Vous voyez ? Alors, ce